Méga Combi, en direct des années 90.
Mes chers compatriotes, je compte voir naître dans les années 90 une confédération européenne qui associera tous les États de notre continent dans une organisation commune d'échange, de paix et de sécurité.
Visage figé dans la mort, scène de terreur et d'horreur, une impression de déjà-vu en d'autres temps, d'autres lieux. Corps déchiqueté, mutilé, gisant sur un trottoir. Ce matin, en plein centre de la capitale bosniaque. Tirés des collines surplombant la ville, trois obus de mortier viennent de s'abattre sur la population. 20 morts, 160 blessés, d'après un dernier bilan. Les artilleurs serbes n'ont pas tiré au hasard, au jugé, pour faire peur. Ils ont touché leur cible avec précision pour tuer des civils et maintenir ce climat de terreur et d'insécurité en Bosnie pour mieux imposer leurs lois.
Pourquoi est-ce qu'on leur parlerait à eux ? C'est bien vous les Français qui bombardez les Serbes. Et vous devriez tous nous tuer tant que vous y êtes.
Les peuples libérés ne nous demandent pas l'aumône, mais des raisons de croire dans un régime de liberté et de justice, c'est-à-dire un certain modèle de vie au sein d'une société de droit.
Et je vais vous dire, s'il y a un seul Français parmi vous, je le tue tout de suite.
Margaret Albright, Bill Clinton ou encore Tony Blair, recherchés comme criminels de guerre.
Les bombardements de l'OTAN auraient fait 300 morts et 3000 blessés.
De paix et de sécurité.
L'enclave musulmane de Srebrenica, à une centaine de kilomètres à l'est de Sarajevo, est tombée aux mains des Serbes vers 15h cet après-midi. Nul ne sait combien il y a de victimes, ni combien il y aura de survivants parmi ces hommes, femmes et enfants, filmés pour la dernière fois vendredi dernier par un amateur.
C'est pire que la Deuxième Guerre mondiale. Le voisin tue le voisin, et on n'a rien à manger. C'est tout.
Ce matin, à 500 mètres de l'aéroport, 8 corps gisent dans leur sang.
6 avril, l'avion du président Habyarimana est abattu. 40 minutes à peine après l'attentat, le massacre commence. Trop systématique pour ne pas avoir été programmé, dira un rapport de l'ONU.
4 hommes et 4 femmes de la minorité Tutsi viennent d'être massacrés à coups de machette sous les yeux d'étrangers évacués. Les soldats français en armes, qui assuraient la sécurité du convoi, n'ont pas bougé.
La France a soutenu le régime qui préparait le génocide des Tutsis. Elle a soutenu ceux qui étaient en train de commettre le génocide, y compris pendant l'opération turquoise. Ce sont nos députés qui le disent. Livraison d'armes et de munitions, formation de l'armée rwandaise dans les effectifs décuples entre 1990 et 1994. Notons que plusieurs journalistes et des témoins rwandais indique que des soldats français pilotaient les hélicoptères ou servaient les batteries de mortiers qui tiraient sur les colonnes des troupes du FPR. Les soldats français ne se contentent pas d'empêcher l'effondrement militaire du régime. Ils participent au contrôle d'identité qui vise à repérer les Tutsis. Dans certains cas, ces soldats ne peuvent ignorer que ceux-ci seront emprisonnés, molestés, voire tués. Tués sous les yeux de nos soldats, c'est ce que rapporte une Rwandaise qui a vu en avril 1991 à la sortie de Rwenguéri, je cite, un Tutsi qui se faisait sortir d'une voiture un peu plus loin que la nôtre. Après la vérification de sa carte d'identité, un militaire français et un autre officier rwandais l'ont donné aux miliciens qui ont commencé tout de suite devant ces voitures à le frapper de leurs machettes et de toutes autres armes qu'ils avaient pour le jeter après dans la rigole. D'autres témoins accusent les militaires français d'avoir participé aux interrogatoires des Tutsis, voire à des actes de torture.
Nous avons été fiers de... Je souhaite de toutes mes forces que la France offre à ceux qui l'aiment le visage qu'ils attendent d'elle. Bonne et heureuse année 90 à tous.
Méga Combi, en direct des années 90.
La guerre commence, les sirènes de Bagdad le hurlent, il est 3h du matin.
Je donne l'ordre au général Norman Schwarzkopf d'utiliser toutes les forces disponibles.
Des centaines et des centaines de points lumineux dans le ciel, les avions des forces alliées lâchent leurs bombes, leurs missiles.
Pour éjecter les forces irakiennes du Koweït.
Dans un abri, l'attente, la peur. Une peur que certains tentent de briser en chantant la gloire de Saddam Hussein. 18 000 tonnes d'explosifs.
explosifs sont tombés cette nuit-là sur l'Irak, une fois et demie Hiroshima. C'était comme un feu d'artifice, racontera un pilote américain.
On nous explique qu'il y a plus de bombes sur Bagdad que ce qu'il y avait pu avoir à l'époque de Hiroshima. Donc vraisemblablement, il y a des centaines de milliers de civils qui ont été tués à Bagdad. Alors nous, on est pour arrêter ce massacre et pour exiger le retrait immédiat des troupes françaises.
Je vois des mecs, des journalistes français habillés en treillis, camouflage kaki dans le désert, en train de nous donner comme information ce qu'ils recevaient de l'état-major américain. Je trouve ça pitoyable, quoi. On a réalisé que toute démocratie qu'on soit, quand le pouvoir veut museler la presse et les journalistes, ils sont en garde à vous, quoi. Donc ça, ça m'a fait germer. J'ai pas aimé, c'est l'hypocrisie du discours, quoi. La guerre du droit pour rétablir la démocratie. Saddam Hussein, ils l'ont pas viré, il est toujours là, il est plus puissant que jamais. Maintenant, c'est un héros du monde arabe. Le problème palestinien, on devait rentrer dans cette guerre pour être à la table des négociations. On n'a même pas un strapontin.
Devant 3000 invités triés sur le volet et des centaines de millions de téléspectateurs sur ces pelouses de la Maison Blanche, trois hommes, pour une image que beaucoup croyaient invraisemblable et qui pourtant, aujourd'hui, est entrée dans le livre d'images de l'histoire au chapitre Espoir. Bill Clinton, le président américain, avec à sa droite Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, et à sa gauche, Yasser Arafat, le chef de l'OLP, l'Organisation pour la Libération de la Palestine. Après une imperceptible hésitation, Rabin et Yasser Arafat vont enfin oser l'impensable, se serrer la main, comme pour sceller un jour que chacun veut historique.
2 juin 1996, Benjamin Netanyahou vient d'être élu à la tête du gouvernement israélien sous le slogan « La paix dans la sécurité ». Et 20 jours plus tard, Netanyahou autorise à Jérusalem l'ouverture d'un tunnel qui longe le mur des Lamentations près des mosquées. Les Palestiniens manifestent, les affrontements avec l'armée israélienne font 65 morts palestiniens, 15 israéliens. Le 18 mars commence la construction d'un nouveau quartier juif dans le secteur arabe de Jérusalem. Netanyahou relance la colonisation et propose d'accorder 40% seulement de la Cisjordanie aux Palestiniens.
Dans le livre d'images de l'histoire, au chapitre Espoir.
Les années 90, paix et de sécurité.
I'm a little bee. I love the sky and the trees. I'm a teeny tiny little ant. Checking out this and that.
Fucking one.